Seigneur Jésus, je veux te remercier ce matin parce que tu nous as impactés, tu nous as touchés, tu nous as montré qui tu étais, tu nous as montré ta bienveillance, tu nous as montré, Seigneur, comment tu veux agir dans nos vies, tu veux nous parler encore, Seigneur. C'est-à-dire, tu bénis ce temps, Seigneur Jésus, d'échange autour de ta parole, Seigneur, et que tu sois vraiment profondément heureux d'être avec nous, au milieu de nous. En tout cas, nous, nous le sommes parce que ta présence est tellement magnifique, tellement belle, Seigneur. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. À toi la gloire. Amen. Ce matin, je voudrais vous raconter, à ma manière, deux histoires que l'on trouve dans la Bible, que vous connaissez certainement. Alors, je la raconte à ma manière, je ne suis pas le texte biblique, vous pourrez peut-être suivre le texte biblique si vous voulez, il sera derrière moi, projeté par Sylvie. Mais je voulais simplement écouter ma manière de vous raconter ces deux textes bibliques. Elle tremble encore, la pauvre femme. Cela faisait 12 ans qu'elle avait tout dépensé pour rechercher sa guérison. Cette maladie lui pourrissait littéralement la vie. Ses pertes de sang entraînaient non seulement de la souffrance physique, elle rongeait son cœur aussi. Deuil de la maternité, repli sur soi, rejet social. Elle ne pouvait toucher personne de peur de communiquer une impureté rituelle. Pas question pour elle de s'approcher du temple, de la présence du Dieu trois fois saint. Elle se sentait une paria. Elle tremble encore, la pauvre femme, parce qu'elle vient de toucher les vêtements d'un homme dont elle pensait qu'il pouvait la guérir. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Au moment où elle effleure de sa main le tissu, elle sent une grande force la parcourir, qui sort de cet homme et qui la guérit de manière instantanée de ses pertes de sang. Elle tremble encore parce qu'elle réalise qu'elle vient de toucher le bord des vêtements de Dieu lui-même. Elle vient de poser la main sur les vêtements du Dieu fait homme, furtivement, comme une voleuse. Cette force sainte l'a bouleversée. Ne va-t-elle pas mourir ? Maintenant, elle qui a enfreint l'interdit ? Ne serait-elle pas couverte de honte, de reproches et d'opprobre alors que les regards de cet homme la recherchent au milieu de la foule et enfin la trouvent et se posent sur elle. « Qui m'a touché ?» disait-il. Et elle s'entend dire « C'est moi » et d'autant plus effrayée, davantage tremblante, elle se jette à ses pieds, prête à son jugement. Mais pas de mots de reproche. Pas de rire, pas d'injure, mais des mots qui apaisent, des mots qui enlèvent le poids de la culpabilité, des mots qui légitiment, des mots semblables à un baume bienfaisant sur une blessure. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Un homme prie dans le temple de Jérusalem. Le temple se remplit de fumée. Le sol se met à trembler. Devant Ésaïe, des pans de tissu, comme un voile, comme un vêtement, l'obligent à lever la tête. Il contemple un trône très élevé. Il reste abasourdi un moment. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Il voit le Seigneur. Des sons et des lumières le sortent de sa torpeur. Des séraphins, des anges de feu, se tiennent au-dessus du trône et qui crient les uns aux autres, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées !» Alors il recule, il fait des pas en arrière. La vision est immense, il suffoque, réalisant qui il est. Malheur à moi, je suis perdu, Je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais un ange de feu s'approche, ayant à la main un charbon ardent. C'est la version ancienne du laser de ce matin. L'ayant pris sur l'autel des parfums qui brûlait là, il en touche ses lèvres et il dit : « Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Et enfin, il entend non plus la voix du séraphin, mais la voix de celui qui est sur le trône. « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? Me voici, envoie-moi. » Mes amis, ces deux histoires qui, à première vue, n'ont pas de point commun, mais en regardant de plus près, ces deux histoires sont la même histoire. Ce sont deux personnes qui sont allées au-delà du voile. Deux personnes qui ont vu le Seigneur dans sa gloire et dans la vie a été bouleversée de fond en comble. Dans le tabernacle et ensuite dans le lieu très saint se trouvait un voile, même deux. Mais ce voile dont je veux vous parler séparait le lieu saint du lieu très saint. Le lieu très saint, le saint des saints, était l'endroit de la présence du Seigneur. En Exode, chapitre 26 et verset 31, il était écrit comme ceci. « Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur quatre colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur quatre bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, au-dedans du voile, que tu feras rentrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. » Ce n'était pas un voile grossier, ce n'était pas non plus un mur en béton, c'était un voile finement travaillé, c'était une œuvre unique, faite par des artistes uniques, inspirés par le Saint-Esprit. Il représentait ce voile, le domaine céleste, la présence de Dieu gardée par des chérubins, ces anges avec des grandes épées flamboyantes. À quoi servait ce voile ? Précisément, ce voile était là pour voiler, mais davantage dans le sens de la séparation que dans le sens de cacher quelque chose. Parce que, excusez-moi, il y a trois choses que le voile dévoile. Il y a trois choses que le voile dévoile, et la première des choses que le voile dévoile, c'est la sainteté de Dieu. Les chérubins protègent l'accès. Nous avons l'image courante de ces chérubins. Alors, lorsqu'on pense à chérubins, ben, ces chérubins, c'est-à-dire des petits anges qui sont sur un petit nuage, qui ressemblent plutôt à des poupées, à des poupons, et qui tirent des flèches sur les amoureux. Les chérubins dans la Bible ne ressemblent pas du tout à ça. Ce sont des anges qui ont des épées flamboyantes. Ce sont eux qui gardent le jardin d'Éden pour empêcher Adam et Ève de revenir. C'est lorsqu'ils sont tissés sur ce voile, c'est comme s'il y avait un grand panneau sans interdit, ou interdit de rentrer. Ou si vous rentrez, attention, vous rentrez ici, dans ce lieu très saint, à vos risques et périls. La seconde chose que le voile dévoile, c'est le désir de communion de Dieu avec les hommes. Parce que si Dieu ne désirait pas entrer en communion avec les hommes, ben il n'y aurait pas eu de tabernacle. Il n'y aurait pas eu de temple. Dieu avait dit à son peuple Israël, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple et j'habiterai au milieu de vous. C'est la même chose que le Seigneur répète à l'Église. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple et j'habiterai au milieu de vous. Et ce matin, nous avons senti sa présence, la présence du Dieu trois fois saint. Et la troisième chose que le voile dévoile, c'est la nécessité d'une médiation. On ne pouvait pas s'approcher de Dieu de manière immédiate. Quelqu'un ne disait pas, tiens, je vais rentrer en présence de Dieu. Et hop, il rentrait, il traversait le parvis, il rentrait dans le lieu saint, et puis après il allait dans le lieu très saint. Ça, ce n'était pas possible. Le grand prêtre, une fois par an, faisait l'expiation des péchés pour son peuple et pour lui-même, en portant dans le Saint des Saints le sang du sacrifice d'expiation. Lui seul pouvait rentrer une fois par an en portant le sang d'un sacrifice en présence de Dieu. Je ne le répéterai pas assez, et vous allez me l'entendre dire sans arrêt. On ne s'approche pas de Dieu sur la base de nos mérites. On ne s'approche pas de Dieu sur la base de nos œuvres. On ne s'approche pas de Dieu sur la base de notre propre spiritualité. On ne s'approche pas de Dieu même sur la base d'une bonne louange réussie comme ce matin. On s'approche du Père de lumière en Jésus-Christ son Fils par la médiation du grand souverain sacrificateur qui a porté son propre sang dans la présence du Père céleste. On s'approche en Jésus-Christ. Alors Ésaïe est passé derrière le voile. Il était dans le temple en prière, et il a vu cette magnifique vision de cette gloire de Dieu, de ce trône très élevé où régnait le Seigneur. C'est le Seigneur qui a pris l'initiative de lui révéler cette présence. Sa vie va connaître un tournant décisif. Il répond à Dieu, « Me voici, envoie-moi ». Mais avant l'envoi, il faut qu'il comprenne cette nécessité de la purification, le besoin pour ses lèvres et pour son cœur d'être touché par le feu de la purification, par la braise ardente. Lorsque Jésus paraît, il est la réalité même des ombres que représentent le temple et le tabernacle. Le temple, le tabernacle est peut-être l'image dans l'écriture hébraïque qui nous parle le mieux de l'incarnation, le fait que Dieu s'est fait homme, que Dieu a voulu habiter au milieu de son peuple. Jésus parlait de son corps comme le temple. Détruisez ce temple et moi je le rebâtirai en 3 jours. Mais son identité profonde, sa nature profonde, était comme voilée aux yeux de ses contemporains. Qui a cru, qui a reconnu le bras de l'Éternel en Jésus-Christ? Il n'avait ni beauté, ni éclat. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il portait. Les gens se demandaient, mais qui est cet homme-là qui parle au vent et que le vent s'arrête? Lorsque Jésus pose la question à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Il a fallu une révélation d'en haut sur Pierre pour dire vraiment qui il était. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dévoilait d'autres choses du caractère de Dieu, sa toute-puissance, sa force, mais aussi sa sollicitude, sa bonté, sa justice, sa grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, nous dit l'évangile de Jean. La femme à la perte de sang est passée derrière le voile. Elle a vu en Jésus autre chose que ce qu'il laissait paraître. Elle a vu Dieu l'Éternel des armées de la même manière qu'Ésaïe a vu Dieu l'Éternel des armées. Elle tremblait, elle était effrayée en présence de Jésus, alors qu'elle venait d'être guérie. Elle a vu elle-même sa propre impureté et la purification apportée par le Seigneur. Et sa vie connaît un tournant décisif. Va, va en paix. Alors mes amis, rappelons-nous que lorsque Jésus est mort sur la croix, il y a ce petit détail qu'on trouve dans les évangiles. Lorsque Jésus s'est écrié « Tout est accompli », qu'est-ce qui se passe dans le temple? Le voile se déchire, et il se déchire de quelle manière? De haut en bas. Est-ce que c'est un détail dans l'évangile ou c'est simplement pour nous signifier que la présence du Seigneur maintenant nous est ouverte, que le chemin a été ouvert pour que nous puissions rentrer en présence du lieu très saint? Et c'est par le sacrifice du Christ, du Fils unique de Dieu, bien-aimé de Dieu, que cela est possible. C'est comme si Dieu maintenant disait, en déchirant ce voile, « Maintenant la justice s'est accomplie, le péché des hommes a été expié, vos péchés ont été expiés. Ce qui me séparait de vous n'existe plus. Ce qui me séparait de vous, votre péché, n'existe plus. Waouh ! Un chemin s'est ouvert. Nous avons accès par Jésus-Christ au trône de Dieu. Rien, écoutez-moi bien, rien de la part de Dieu ne nous empêche d'aller vers lui, d'entrer dans le Saint des Saints, dans sa présence. Et c'est lui qui nous y attend, c'est lui qui nous y appelle. C'est là que se trouve véritablement le repos de nos cœurs. Les chérubins ne sont plus des anges qui nous empêchent d'entrer. Ils sont avec nous comme des compagnons d'œuvre, dans leur sphère propre. Alors je le répète, rien de la part de Dieu ne nous empêche de venir vers lui. Si nous restons derrière le voile qui a été déchiré, c'est peut-être à cause de notre propre cœur. Alors que le Seigneur nous appelle comme il nous a appelé ce matin, je dresse une table pour vous, venez, venez vous servir. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi ne venez-vous pas prendre la bénédiction qui est liée à ma présence? Notre propre cœur. Alors, peut-être la crainte de ne pas être à la hauteur de Dieu. Alors, je ne vais pas vous détromper. Oui, vous ne serez jamais à la hauteur de Dieu. Je ne serai jamais à la hauteur de Dieu. Si nous craignons de ne pas être à la hauteur, c'est que peut-être encore dans notre cœur, nous avons une espèce de part de fierté, que nous n'avons pas compris totalement notre misère. Et l'Évangile est pour les misérables, frères et sœurs. Elle est pour les malades. Elle est pour ceux qui tremblent devant Dieu. L'Évangile est pour ceux qui reçoivent cette parole. Ma fille, mon fils, va en paix. Et alors cette parole, mon fils, ma fille, va en paix, c'est comme une force que Dieu nous communique. Et on peut se relever. La misère, c'est plus un problème. La force de la parole de Dieu nous est communiquée. Vous savez, seule la femme tremblante et effrayée a ressenti la force du Seigneur. Les bien portants qui étaient autour n'ont rien vu ni entendu, rien ressenti. La femme tremblante a entendu la voix qui s'adresse à elle. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie. L'Évangile sera toujours une bonne nouvelle, c'est-à-dire ce que Dieu a fait pour nous, et non ce que nous devons faire pour Dieu. Ok ? Le trône de Dieu est un trône de grâce. Une autre raison de ne pas aller en avant, c'est que peut-être nous sommes autosatisfaits. Nous ne voulons pas aller plus loin dans la présence du Seigneur parce que là où nous en sommes, eh bien, nous sommes bien. Nous sommes dans un confort, dans le confort. Nous sommes riches de nous-mêmes, de notre spiritualité. Et nous ne voyons pas l'intérêt de nous approcher plus près du Seigneur. Parce qu'en fait, on n'aime pas être remis en cause par la présence du Seigneur. Notre cœur est autosatisfait. Nous jugeons notre spiritualité de haut niveau. Et devant le feu de Dieu, notre spiritualité semble un peu terne. Tu te crois riche, il nous est dit dans l'Apocalypse. Alors que tu es pauvre, tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède. Et lorsqu'on s'approche devant le trône de Dieu, l'autosatisfaction des lèvres et du cœur est brûlée par le charbon ardent, par le laser que le Seigneur veut pointer sur nous. Une troisième raison pour ne pas aller plus loin derrière le voile et nous approcher du Seigneur, c'est que dans l'obscurité, nous ne voyons rien et que tout se dévoile à la lumière. Nos cœurs savent que devant sa lumière et son feu, les choses obscures de notre être sont dévoilées et qu'elles doivent prendre fin. Nous n'aimons pas ça, la chair n'aime pas ça, notre vieil homme n'aime pas ça. Nos obscurités intérieures jettent un voile entre le Seigneur et nous. Ce n'est plus le voile de la sainteté de Dieu avec les chérubins, ça a été déchiré, mais c'est le voile de nos péchés, de notre orgueil, de nos jalousies, de nos rancunes, de nos intentions si peu avouables. Alors j'ai fait une expérience un peu extraordinaire où le Saint-Esprit m'a montré quelque chose de très particulier dans mon cœur et j'aimerais vous le dire, c'est pas à ma gloire et c'est tant mieux, c'est la gloire du Seigneur qui fait son travail en nous. On devait prendre une décision avec un frère. J'étais mal à l'aise avec la décision. Les échanges se faisaient par mail. J'avais commencé à écrire au frère. Je te fais confiance. Alors c'est super cette phrase, n'est-ce pas ? Je te fais confiance. Ça veut dire quand même que voilà, une assurance de piété, de spiritualité. Mais alors, pendant que j'écrivais, je te fais confiance, j'ai vu, et c'est le Saint-Esprit qui a montré, j'ai vu la noirceur de mon cœur. J'étais en train d'écrire avec mes doigts sur le clavier, je te fais confiance, mais mon cœur écrivait dans le ciel, je m'en lave les mains. Quelle que soit la décision que tu prendras, je m'en lave les mains. Ça a été un moment de lucidité spirituelle. J'ai vu le Seigneur mettre sa braise ardente sur ce cœur qui a brûlé cette impureté, cette hypocrisie déguisée en spiritualité. Alors le Seigneur, continue, hein, ça, je ne veux pas dire qu'on prend plaisir à ça, mais je pense que c'est vraiment pour sa gloire que notre purification doit être faite. David demandait à Dieu, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Quoi, tu ne le sais pas, David, que tu es sur une mauvaise voie ? Que tu dois demander à Dieu, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Il arrive des moments où on se croit bien, où on se croit sur une bonne voie, alors que nous sommes sur une mauvaise voie. Alors ma prière, c'est comme celle de David, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Que le Seigneur fasse cela dans mon cœur encore et encore, que le Seigneur fasse cela dans notre assemblée. Alors mes amis, je vais quand même donner un bémol. Ne tombons pas dans le piège de nous scruter à tous les instants, savoir si je suis bien, de faire de l'auto, comment on va dire, voilà. Introspection pour savoir si je suis bien, si je suis spirituel, si je ne suis pas spirituel. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut que nous fassions. Lorsque le Saint-Esprit veut nous dire quelque chose, donnons-lui l'autorisation d'intervenir dans notre vie. Demandons-lui comme le Christ, comme David le dit, Seigneur, conduis-moi dans la voie de l'éternité, montre-moi, je te donne la permission, je te donne l'autorisation d'intervenir dans ma vie pour montrer ce qui ne va pas, et m'enlever et me purifier ce qui ne va pas. Nous devons prendre la décision, frères et sœurs, de venir simplement dans la lumière, et lorsque nous sommes dans la lumière, les choses qui sont obscures sont dévoilées, et là il y a cette braise, ce laser qui est là pour enlever et purifier ce qui ne va pas. Lorsqu'on passe derrière le voile, nous trouvons le trône de Dieu. L'Apocalypse nous montre ce trône. Et sur ce trône, il y a quelqu'un qui est assis. C'est quelqu'un, il ressemble à un agneau comme immolé. Hein, un agneau immolé. Pour les gens qui sont encore derrière le voile, ils peuvent comprendre un agneau, mais ils ne voient qu'un agneau sans force. Mais celui qui passe derrière le voile, qui a été déchiré par Jésus-Christ, celui qui s'approche humblement devant ce trône, il entend le nom de l'agneau. Et ce nom, il s'appelle le lion de Juda. Le lion de Juda. Juda, c'est la tribu, une des 12 tribus d'Israël, où il y a eu une parole, de toi sortira un chef. Le lion, c'est un symbole de force. Notre Seigneur est l'agneau et il est le lion. Et ça, ce n'est que derrière le voile, lorsqu'on s'approche du trône dans sa lumière, que l'on peut s'apercevoir de cela. Le Seigneur est un lion. Il a une force et en même temps, il est un agneau, il est complètement bienveillant vis-à-vis de nous. Devant le trône, dans sa lumière, là, le Seigneur purifie, là, le Seigneur guérit, là, le Seigneur apaise, là, le Seigneur bénit. Nous ne sommes plus des voleurs qui viennent furtivement pour essayer de quémander la grâce de Dieu. Nous sommes des fils et des filles légitimes qui nous approchons de notre Père de lumière. Amen. Prions. Seigneur, nos cœurs étaient sans repos jusqu'à ce que nous venions à toi. Et en toi, Seigneur, nous avons trouvé la paix et le vrai sens de la vie, comme cette femme à la perte de sang, comme Ésaïe dans ce temple. Seigneur, tu nous invites à nous approcher ardemment de toi, toujours plus près de toi, à aller devant ce trône, à aller au-delà du voile, Seigneur. Je veux venir plus près de toi. Nous voulons venir plus près de toi. Nous venons, Père, par ce chemin que tu as ouvert, par ce chemin que notre frère et Seigneur Jésus a inauguré. Père, sonde mon cœur encore, sonde nos cœurs encore, sonde les cœurs de cette communauté qui t'aime. Ôte le voile que nos cœurs tortués tissent sans arrêt. Fais-le, Seigneur. Père, je te prie pour les cœurs en souffrance ce matin dans notre assemblée. Que ta force sainte les touche maintenant. Parle au cœur qui aspire à la paix. Parle avec les mots qu'ils comprennent. Que cette parole soit vivante maintenant. Ma fille, mon fils, ta foi t'a guéri. Sois guéri de ton mal. Sois purifié de ta blessure. Sois purifié de ton impureté.